Thomas Atrick, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 juin 2022. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la RDC a fermé sa frontière avec le Rwanda ce vendredi après la mort d'un soldat congolais au cours d'un accrochage avec des gardes frontières rwandais. Des heurts ont éclaté aujourd'hui à Dakar au Sénégal entre des jeunes et la police, tandis que le leader de l'opposition Ousmane Sonko était bloqué chez lui après son appel à défier une interdiction de manifester. Nigeria, élection test dans le sud-ouest avant la présidentielle de février 2023. Le Royaume-Uni donne son feu vert à l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Le fondateur de WikiLeaks a décidé de faire appel. Le président Joe Biden souligne l'importance de la sécurité énergétique lors d'une conférence sur le climat. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Un soldat congolais a été tué, deux policiers rwandais et des civils blessés aujourd'hui dans un échange de tirs à un poste frontière entre la RDC et le Rwanda à Goma. Cet incident s'est produit alors que les autorités de Kinshasa accusent celle de Kigali de soutenir l'offensive du groupe rebelle M23 contre les troupes gouvernementales au nord Kivu. Mouamadou Mfa fait le point.
Selon l'armée rwandaise, le soldat congolais tué vendredi a blessé deux policiers rwandais avant d'être neutralisé du côté rwandais de la frontière. Cet incident s'est produit alors que les autorités de Kinshasa accusent celle de Kigali de soutenir l'offensive du groupe rebelle Tutsi M23 contre les troupes gouvernementales au nord Kivu dans l'est de la RDC. Le Rwanda nie tout lien avec les rebelles comme l'envoi de soldats en RDC. Le gouvernement congolais qui a ouvert une enquête sur cet incident a ordonné la fermeture de la frontière entre les deux pays à partir de 15h ce vendredi, a indiqué le gouverneur du Sud Kivu dans un communiqué cet après-midi.
À Dakar, l'appel à manifester de la coalition d'opposition Yewi Askanoui a débouché sur des affrontements entre les forces de l'ordre et des jeunes de l'opposition dans les artères de la capitale sénégalaise. Suite à l'interdiction de la manifestation par le préfet de Dakar, l'opposition a appelé à la résistance. De notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Des pneus brûlés, des routes barricadées, des jeunes surexcités à Dakar. Les membres de la coalition d'opposition Yewi Askanoui ont décidé de défier l'arrêté d'interdiction du préfet en faisant face aux forces de l'ordre. Les tensions ont commencé très tôt le matin quand les militants de la dite coalition ont découvert sur les réseaux sociaux les vidéos de l'opposant Ousmane Sonko bloqué chez lui par des éléments du groupe mobile d'intervention de la police nationale. Un impressionnant dispositif des forces de l'ordre était présent devant son domicile, comme partout ailleurs dans la capitale, notamment à la place de la Nation, où la marche de la coalition d'opposition Yewi Askanoui était prévue ce vendredi. Vers 15h d'ailleurs, les premiers militants à s'aventurer sur la dite place ont été repoussés par les éléments de la police nationale. S'en sont suivies des scènes dignes de guérilla urbaine qui se sont multipliées partout à Dakar, où les impressionnants dispositifs de la police et de la gendarmerie n'ont pas freiné l'ardeur des jeunes de l'opposition. Il faut rappeler que ces remous font suite à la contestation par la coalition Yewi Askanoui du rejet de sa liste des titulaires aux prochaines élections législatives qui auront lieu le 31 juillet 2022. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
L'organe législatif installé par les militaires au pouvoir au Mali a adopté aujourd'hui un projet de loi électorale prérequis à l'organisation d'élections et à un retour des civils au pouvoir après l'avoir remanié contre la volonté du gouvernement. Ce texte, qui doit désormais être promulgué par le président, met notamment en place un organe unique de gestion des élections à la place d'un système tripartite contesté. Il a été voté par le Conseil national de transition à 115 voix pour, 3 contre et aucune abstention. Le gouvernement malien avait indiqué qu'une fois cette loi électorale adoptée, il pourrait présenter très rapidement à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le calendrier qu'elle réclame avec le détail des étapes qui mèneraient à des élections précédant le retour des civils au pouvoir. Le médiateur ouest-africain pour le Burkina Faso, l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, est arrivé aujourd'hui à Ouagadougou pour rencontrer les militaires au pouvoir et poursuivre les discussions autour du délai de la transition. Le Burkina Faso a fixé à 3 ans la durée de la transition avant l'organisation d'élections. À l'issue d'un sommet début juin, la CEDEAO avait exprimé son inquiétude et ses préoccupations devant la détérioration de la situation humanitaire. Monsieur Issoufou doit séjourner ce vendredi et demain samedi dans la capitale burkinabé, où il rencontrera notamment le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, selon la présidence du FASO. Les électeurs de l'État d'Ekiti dans le sud-ouest du Nigeria se rendent aux urnes demain samedi pour élire leur nouveau gouverneur, un vote test à 8 mois de l'élection présidentielle. L'État d'Ekiti, un des 36 du Nigeria, est considéré comme un des États pivots du scrutin présidentiel de février 2023. La police a indiqué avoir déployé près de 17 000 agents pour garantir une élection sans heurts. Organisée en 2018, le précédent scrutin à Ekiti avait été émaillé de violences et d'accusations de fraude.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement britannique annonce avoir signé le décret d'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les États-Unis, où l'Australien de 50 ans est poursuivi pour une fuite massive de documents confidentiels. Wikileaks dénonce un jour sombre pour la liberté de la presse et précise qu'Assange fera appel. Nani Talani.
Le ministère de l'Intérieur britannique estime que l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis n'est pas incompatible avec ses droits humains, y compris son droit à un procès équitable et à la liberté d'expression, et que l'Australien sera traité de manière appropriée, y compris en ce qui concerne sa santé. Pour les soutiens d'Assange, c'est un jour sombre, mais pas la fin du chemin. Nous allons utiliser toutes les voies de recours, a réagi Stella Assange, l'épouse de l'Australien. L'avocate Jennifer Robinson a confirmé que son client ferait appel devant la justice britannique dans les 14 jours impartis et, si nécessaire, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Des organisations de défense de la liberté de la presse s'opposent à cette extradition en raison de la grave menace qu'elle représente, selon elle, pour la liberté d'expression partout dans le monde et aux États-Unis et du message effrayant aux journalistes du monde entier. Elles craignent aussi que Julian Assange n'y soit soumis à des conditions d'isolement qui aggraveraient un risque de suicide. Monsieur Assange est réclamé par la justice américaine qui veut le juger pour la diffusion à partir de 2010 de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il risque 175 ans de prison. S'il saisit la Cour européenne des droits de l'homme, le processus est susceptible de prendre plusieurs années.
Le président américain Joe Biden a estimé aujourd'hui, lors d'une conférence des grandes économies sur le climat, que l'invasion russe de l'Ukraine démontrait l'importance des énergies renouvelables pour la sécurité nationale ainsi que pour la lutte contre la crise climatique. Plus de détails avec Claire Morégibou.
Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled the global energy crisis.
L'attaque brutale et non provoquée de la Russie contre sa voisine l'Ukraine a alimenté une crise énergétique mondiale et a rendu encore plus clair le besoin d'atteindre une sécurité énergétique fiable et de long terme, a affirmé Joe Biden en ouverture de ce forum auquel il a convié les principales économies du monde. C'est la troisième fois que le président américain réunit le forum des grandes économies sur le climat et l'énergie face à l'inflation galopante, notamment tirée par la hausse des prix du carburant. Pour la Maison-Blanche, cette conférence s'inscrit dans le cadre des efforts du président Biden pour s'attaquer à la crise climatique mondiale, répondre de façon urgente à la hausse des prix exacerbée par la guerre russe en Ukraine et mettre les États-Unis et leurs alliés sur la voie de la sécurité énergétique et alimentaire durable. La Chine n'est toutefois représentée que par son émissaire sur le climat et non par son président Xi Jinping. L'Inde, autre émetteur majeur de gaz à effet de serre, ne figure pas sur la liste officielle des participants.
Le premier ministre britannique Boris Johnson était ce vendredi à nouveau en déplacement à Kiev, une visite surprise qui intervient au lendemain de celle de 4 dirigeants de l'Union européenne. Le premier ministre britannique a offert de lancer un grand programme de formation des forces ukrainiennes qui pourrait former jusqu'à 10 000 soldats tous les 120 jours. Et puis les Français sont de nouveau appelés aux urnes dimanche pour un second tour des élections législatives dont le président Emmanuel Macron et ses ambitions réformistes attendent une majorité solide et claire qui reste suspendue à l'ampleur de la mobilisation en faveur de ses adversaires, NUPS en tête. Au total, 572 circonscriptions françaises sur 577 restent en jeu avec une majorité absolue fixée à 289 sièges. Au moins une personne a été tuée et 7 autres blessées dans un attentat à la bombe contre une mosquée. C'est dans le nord de l'Afghanistan pendant la prière de ce vendredi. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Kalani.
Les bailleurs de fonds ont promis de soutenir le plan de développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire à hauteur de 26 milliards de dollars à l'issue d'une réunion consultative du gouvernement ivoirien avec des investisseurs et des partenaires à Abidjan mercredi pour lever des fonds du programme quinquennal. Ce plan de développement nécessitera près de 95 milliards de dollars, dont près de 25 milliards devraient provenir du secteur public et 70 milliards, soit 74% du montant du secteur privé. Au Maroc, les prix des carburants à la pompe ont atteint de nouveaux records jeudi, l'essence sans plomb frôlant désormais les 18 dirhams le litre et le gazole près de 16 dirhams. La CDT, l'un des principaux syndicats, exhorte le gouvernement à intervenir d'urgence pour protéger le pouvoir d'achat de la population. 3 autres syndicats appellent à une grève nationale ce lundi. Les autorités marocaines refusent jusqu'à présent à subventionner les carburants comme avant 2015, mais ils ont doublé les subventions pour le gaz butane, la farine et le sucre. Pour terminer, les prix du pétrole ont légèrement baissé ce vendredi et étaient sur la bonne voie vers une baisse hebdomadaire. Le Brent brut a baissé de 56 cents, soit 0,5%, pour s'établir à 119,25 dollars le baril et le brut américain West Texas Intermediate a chuté de 78 cents, soit 0,7%, pour se situer à 116,81 dollars.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
On n'aura que du basket au programme, les Warriors, sacrés champions NBA.
Oui, grâce à Stephen Curry, impérial et une défense intraitable, Golden State a remporté la finale NBA en s'imposant 103-90 à Boston face aux Celtics. Les Warriors enlèvent la série de finale 4-2. C'est leur 4e titre de champion en 6 finales disputées ces 8 dernières saisons, le 7e de leur histoire. Avec 31,2 points de moyenne, Steph Curry a fini meilleur joueur de la finale pour la première fois à 34 ans, lui qui a décroché son 4e titre NBA avec les Warriors. Sacre mérité pour Golden State, selon Amin El Amri, consultant sportif joint à Casablanca, au Maroc.
C'est la persévérance des Warriors qui a été primée cette saison, parce que ce n'était pas facile de récupérer des joueurs comme Steph Curry, Klay Thompson, qui ont souffert de grosses blessures et qui les ont empêchés de jouer pendant presque 2 ans. Le départ de Kevin Durant aussi avait mis en suspens cette magnifique dynastie qui avait réussi à remporter 2 championnats de suite en 2017 et en 2018. La première saison des Warriors, c'est surtout par rapport à leur défense qui a été très très bonne, qui a obligé les Celtics à se montrer sous un autre visage carrément différent de ce qu'ils ont fait dans la conférence Est où ils ont dominé leur série.
Amin El Amri, consultant sportif dans l'effectif de Golden State, on retrouve le prodige congolais Jonathan Kuminga, même si l'on ne l'a pas vu sur le parquet lors de la finale, joint à Bangui en République centrafricaine. Eugène Pewa Pelema, consultant sportif, estime que le jeune champion NBA a de l'avenir devant lui.
Pour Jonathan Kuminga, qui a permis à cette équipe de Golden State pendant toute la saison régulière d'être en tête de tableau, c'est un joueur du futur, c'est un joueur qui a énormément de qualité et qui est un joueur de haut niveau. Malheureusement, qui n'avait pas été utilisé pendant la finale pour des raisons que je ne comprends pas. Mais bon, ce n'est que partie remise pour lui. C'est un encouragement pour les Africains qui veulent travailler et qui comprennent que l'excellence en NBA est nécessaire. C'est un joueur, en tout cas, qui a prouvé pendant toute la saison régulière et même certains matchs de play-off.
Les Celtics étaient à la recherche d'un 18e titre NBA sous la houlette de leur coach d'origine nigériane, Ime Udoka. Pour Eugène Pewa Pelema, coach Udoka a fait un beau parcours.
Ime Udoka, qui a joué d'ailleurs pour l'équipe du Nigeria dans l'Afrobasket 2005 et 2011, est devenu l'entraîneur principal de cette équipe de Boston Celtics. Il a fait un énorme travail. Il avait commencé ce championnat de cette année, la saison régulière, avec un record assez négatif. Après 20 et quelques matchs, il a transformé son équipe et donc il a construit pour le futur une franchise de joueurs qui ont la chance dans le futur de pouvoir remporter ce titre. Il a rencontré des adversaires très difficiles le long des playoffs et il a prouvé qu'il fait partie de la crème de basketball. Il a été assistant chez coach Popovich à San Antonio avant de devenir assistant dans l'équipe, je crois, de Philadelphia Sixers avant de prendre ce poste-là. Et donc, on lui dit félicitations. C'est un encouragement à tous les entraîneurs africains.
Eugène Pewa Pelema, consultant sportif, joint à Bangui en République centrafricaine.
Page de sport signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écho du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La résurgence du M23 et l'intensification des combats ces dernières semaines ont ravivé les tensions entre Kinshasa et Kigali. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir militairement ce groupe rebelle, ce que dément catégoriquement le gouvernement de Kigali. Eric Manirakiza a joint à Goma le professeur Kennedy Kiangi Bendu, directeur du Centre de recherche CREDA sur la démocratie et le développement en Afrique. Il est également vice-recteur de l'Université libre des pays des Grands Lacs.
Il y a un mouvement militaire intense ici, que ce soit du côté de M23, considéré déjà comme étant un mouvement terroriste par le gouvernement congolais. La République démocratique du Congo qui réagit par ses forces à ces attaques, ça fait qu'il y a des déplacements intenses des populations, des mouvements des populations. Mais à tout cela, il y a déjà aussi une psychose qui se développe dans la ville, particulièrement à Goma, où on a vu, il y a de cela 2-3 jours, la population s'est lancée dans les rues pour désapprouver tout ce qui est considéré comme étant un soutien que les Rwandais apporteraient ou apportent au mouvement à ceux qui sont considérés déjà comme étant des terroristes, donc le rebelle dit M23. Et cela fait que la population s'est levée pour dire non et apporter tout son soutien à l'armée nationale. Alors, c'était des messages forts qui étaient lancés par des populations, notamment la population de Goma, autour de cette question. Et il fallait donc que le gouvernement réagisse le plus tôt que possible. Parce que quand vous voyez déjà un soulèvement pareil de la population, il faut pas prendre ça à la légère, il faut déjà prendre le temps de réfléchir et savoir comment est-ce que on peut apporter réponse à cette parole de la population. Elle s'exprime. Le gouvernement peut être indifférent. Alors, le fait de ne pas peut-être prendre à bras le corps cette question, ça fait que il y a une accumulation de mécontentement. Et cette accumulation, si ça n'est pas géré à temps, ça peut poser encore beaucoup d'autres incidents plus que ce qu'on vient de vivre ce matin dans la ville.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'instrumentalisation, parce que on a entendu et ça se sent, le malaise est là, il y a un discours xénophobe?
Moi, je pense que l'essentiel, c'est d'abord savoir qu'est-ce qui est à la base de cette crise. Je crois que c'est là il faut partir d'abord de là. Ça veut dire faire un examen de manière constructive de la crise, voir les sources, les origines, et aborder la question de manière froide, tête froide. Et c'est ce qui pourra permettre de résoudre le problème. Parce que si on veut s'intéresser seulement aux conséquences, en ignorant les origines et les racines, on ne saura pas résoudre le problème. C'est ainsi que vous allez trouver, on commence à toucher les aspects d'ordre artificiel, d'ordre cosmétique, et on ne sait pas voir le fond de la question. Moi, à mon point de vue, c'est vrai que l'on ne puisse pas céder au chantage, mais plutôt que l'on puisse aborder la question de manière responsable et que l'on s'assoie effectivement pour résoudre la crise avant qu'il ne soit trop tard.
Et comment calmer la population?
La population a besoin de la paix. Cette population voudrait que l'autorité rassure.
Professeur Kennedy Kiandi Bendu, directeur du Centre de recherche CREDA sur la démocratie et le développement en Afrique, vice-recteur de l'Université libre des pays des Grands Lacs.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
L'avocat et militant anglophone camerounais Félix Agbor Bala, directeur du Centre pour les droits humains et la démocratie en Afrique, était à Washington récemment avec sa compatriote Maximilienne Ngobe pour recevoir les prix des droits humains de l'organisation Robert Kennedy Human Rights. L'ex-président du consortium de la société civile anglophone du Cameroun, mouvement interdit par le gouvernement, a été emprisonné pendant 9 mois en 2017 après l'organisation d'une grève d'avocats et d'enseignants à Boya, dans le sud-ouest du pays, pour la reconnaissance de la culture anglophone. Nathalie Barge a posé quelques questions à Agbor Bala lors de sa visite ici à Washington.
Le problème, c'est que le gouvernement ne respectait pas les engagements. Depuis des années, chez nous, les anglophones, il y a plusieurs choses qu'on peut porter plainte contre l'État du Cameroun. Mais moi, je pense aussi que l'État du Cameroun et les séparatistes aussi, et la société civile aussi, pour voir comment ils peuvent travailler ensemble avec nos partenaires aussi, pour chercher à trouver une solution. Parce que ce n'est pas possible que seulement l'État du Cameroun et les séparatistes pour trouver une solution. Pour le moment aussi, il y a plusieurs personnes qui sont hors du Cameroun. Chichou qui habite aux États-Unis et pas d'autres pays aussi, qui incite la violence au Cameroun aussi, qui envoie l'argent pour acheter les armes contre les civils et les militaires aussi. Donc c'est une situation très difficile. Vous savez que depuis 5 ans, les enfants, plusieurs enfants ne partent pas à l'école. Donc c'est une chose aussi très gênante. Il y a plusieurs personnes qui sont en prison, beaucoup en prison. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait 2 ou 3 ans sans vu un juge. Ils sont toujours là-bas et on a arrêté les gens qui faisaient rien. Peut-être tu es dans un mauvais endroit. Tu sortais chez toi pour acheter quelque chose. On va amener à Yaoundé. Et c'est dans le tribunal militaire. C'est quelque chose aussi que moi je pense que comme quelqu'un qui a fait 9 mois là-bas, moi je n'ai pas le meilleur endroit pour envoyer les gens. Surtout la Cour, la Commission africaine des droits de l'homme avait dit tu ne peux pas arrêter les gens au sud-ouest, au nord-ouest et amener à Yaoundé pour poursuivre dans le tribunal militaire.
Alors, on sait que des exactions sont commises de la part des groupes armés et aussi du côté de l'armée. L'armée qui avait tout de même reconnu en 2020 que ses soldats avaient tué 22 civils à Ngarbou et à Missong dernièrement, 9 civils tués. Il y a eu des arrestations, une enquête est en cours. Est-ce que selon vous, cela peut présenter une évolution dans la crise dans la région?
Il avait accepté Ngarbou parce que la société civile avait commencé à déjà dire que c'est le militaire qui a fait ça. Et il avait attaqué les gens des sociétés civiles qui ont dit que c'est les militaires qui ont fait ça. Mais pour moi, c'est une évolution aussi. Et c'est grâce à le travail des sociétés civiles, la région se sauve aussi. Parce qu'ils savent que même s'ils n'acceptent pas, il y aura les gens qui vont dire qu'ils ont fait ça. Mais maintenant, quand ils amènent les gens dans les tribunaux militaires, ce n'est pas ouvert, les gens n'ont pas au courant. Donc il faut aussi que quand ils ont un militaire ouvert, c'est ouvert pour la population, n'est-ce pas? Mais c'est bon parce qu'ils ont commencé à faire quelque chose de bien. Mais c'est pour avoir un engagement avec la société civile aussi. Pour avoir un engagement aussi avec les victimes, les familles aussi, ils doivent être au courant de ce qui est en train de passer. Mais on ne peut pas s'en sortir si on n'assit pas aussi pour chercher à trouver une solution. Parce que tous les jours, on va avoir les choses comme ça. Il faut que les deux camps, avec les sociétés civiles, commencent à réfléchir, à parler. On ne peut pas gagner cette bataille avec la force.
Et selon vous, est-ce que vous ne pensez pas que Paul Biya a fait quelques efforts, notamment en proposant un statut spécial aux régions anglophones?
S'il est prêt à donner cette institution le pouvoir, ça va aider. Mais pour le moment, les anglophones ne pensent pas que cette institution va aider aussi les gens.
C'était l'avocat anglophone camerounais Félix Agbor Bala, directeur du Centre pour les droits humains et la démocratie en Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Togo, les besoins en sang se font toujours sentir. La banque de sang n'arrive pas à satisfaire la demande. Le Centre national de transfusion sanguine passe par des sensibilisations et des collaborations avec des associations et entreprises pour faire face à la situation. De Lomé, la correspondance de Kossi Wosu.
La salle d'attente du Centre national de transfusion sanguine de Lomé est assez animée en cette fin de matinée. Une trentaine de personnes attendent patiemment leur tour pour donner du sang. Ils ont répondu à la campagne spéciale de dons de sang du Centre national de transfusion sanguine à l'occasion de la journée mondiale dédiée. La jeune juriste Daina Mortan vient tout juste d'accomplir le geste salvateur. Elle raconte.
Ce qui m'a motivée, c'est lorsque mon père était tombé malade. Il avait besoin de sang. Et ma mère était venue ici. Elle a pas arrêté toute la journée, mais n'a pas trouvé de sang. C'est là que mon grand frère, moi-même et mon petit frère, le dernier, on a décidé de donner notre sang.
Et depuis 2017, elle renouvelle le geste une fois chaque trimestre pour permettre de renflouer la banque de sang. Yao vient de s'en procurer après 5 heures d'attente.
Le retrait n'est pas du tout facile. Il faut patienter avant de recevoir. Nous sommes arrivés ici autour de 5h00. Et voilà, c'est à cette heure-ci qu'on vient de quitter. Ils sont déjà 11h19. Par grâce de Dieu, nous on vient de prendre comme ça.
Yao peut vraiment remercier le ciel. Sous un hangar, une trentaine de personnes attendent impatiemment le liquide précieux. Le Togo peine à récolter les 75 000 poches de sang nécessaires chaque année. Kossi Boko Agbemadon est la chef d'unité de la collecte fixe au centre de transfusion sanguine de Lomé.
L'année passée, nous avons pu collecter 53 600 poches. Ça veut dire que 70% des besoins ont été satisfaits et 30% n'ont pas été satisfaits. Donc, il reste beaucoup à faire encore afin de pouvoir atteindre l'autosuffisance en matière de produits sanguins dans notre pays.
Kossi Boko Agbemadon peut compter sur la mobilisation des associations et des personnes comme Noudjo, d'ailleurs habitant le quartier Kégué dans la capitale, pour améliorer ce score dans les années à venir.
C'est la première fois que je suis venu donner mon sang et je suis fier d'aider. Je promets revenir autant de fois que cela est possible. Et puis, je vais mener une campagne de sensibilisation dans mon quartier pour amener beaucoup plus de monde à donner leur sang pour sauver la vie des autres. C'est important.
Noudjo fera peut-être partie de ceux que le Centre national de transfusion sanguine récompensera en 2023, comme il a fait cette année à l'occasion de la journée mondiale de dons de sang pour les entreprises, les associations et les personnes qui l'ont aidé à se rapprocher des objectifs des 75 000 poches annuelles. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Vol annulé, transport public immobilisé, bureaux de poste fermés, une grève à l'appel des syndicats a paralysé le secteur public en Tunisie hier, un mouvement qui accentue la pression sur le président Kais Saied, le chef de l'État déjà confronté à de graves crises politiques et financières. Blanche Sanou nous en dit plus.
La grève de 24 heures à l'appel de la puissante Union Générale Tunisienne du Travail semble être largement observée dans toutes les villes. Plus de 3 millions de salariés sont concernés par la grève et cela devrait paralyser au moins 159 entreprises étatiques. Noureddine Taboudi, secrétaire général de l'Union Générale Tunisienne du Travail.
Dans tout le recoin de la Tunisie, notre grève est réussie à 86,22%. Ce qui nous a amené à cette situation, c'est ce gouvernement. Si nous en sommes arrivés là, c'est que ce gouvernement est têtu et il répand des fausses nouvelles et des contre-vérités.
Face à une inflation galopante, l'UGTT réclame notamment de nouveaux accords salariaux et exige aussi le retrait d'une circulaire gouvernementale interdisant au ministère de mener des discussions bilatérales sectorielles sans l'accord du chef de gouvernement. Pour certains Tunisiens, comme Atem Bejaoui, vétérinaire, la grève d'aujourd'hui arrive trop tard.
Quelles que soient les grèves, durant cette période, elles sont inutiles parce que le pays est dans une situation économique très fragile. Tout augmente et la vie des Tunisiens se complique de jour en jour.
Cette grève se déroule au moment où Kais Saied consolide sa mainmise sur le pays, 11 mois après s'être arrogé les pleins pouvoirs. Il est sous le feu d'intenses critiques de l'opposition pour l'avoir exclu d'un dialogue national censé aboutir à une nouvelle constitution qu'il prévoit de soumettre à un référendum le 25 juillet.
Puerto Rico.
lingi yo pesi yo motema nanga kotalanga pamba te mwana mwasi oyo emanange koti boloko ya bolingo mabanzu bandoto pasi pipi ayaka akobelela yo azwani na matinda baniokola ngai mingi niope lisusu soki osalinga boye nakozonga mboka na bosa na moso bolingo etikeloko te na memoire nanga nasalaka boye
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée.